Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Simplement la réaction des personnes en face de toi quand t'es en entretien et que tu vois de la culpabilité ou de la tristesse ou des choses comme ça, parce que des personnes au RSA qui vont faire des cadeaux à 200€ pour leur gamin pour Noël et qui disent « mais moi j'ai rien eu quand j'étais gamin ou quand j'étais gamine, donc je veux pas que mon enfant vive la même chose que moi ». Voilà. Et là, à ce moment-là, on se dit « bah oui, le vécu influe sur le présent ». Et donc c'est là beaucoup que j'ai vu ça et que bah, on essayait de trouver justement des compromis en disant « oui, peut-être que 200€ c'est beaucoup » ou « qu'est-ce que vous considérez aussi comme un cadeau ?» Parce qu'on disait « cadeau utile, j'en sais rien, acheter un nouveau lit pour votre enfant ». Ah bah non, c'est pas un cadeau. Il y a ça aussi, c'est qu'est-ce que ça représente pour eux, pour leur enfant. Et en fait, ça fait un peu l'enfant intérieur, quoi. C'est un peu réconforter son enfant intérieur.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. On est avec Isabelle. Salut Isabelle.
Salut.
Alors Isabelle, tu m'as envoyé un mail il y a fort longtemps, avant même que le podcast soit sorti.
Oui.
J'ai retrouvé le mail, c'est tout début décembre, je crois que c'est au moment où j'ai annoncé la sortie du podcast. Il n'y avait même pas eu encore un épisode qui était sorti. Et tu m'avais dit, j'ai vu que vous sortiez un podcast sur les histoires d'argent par rapport au podcast Histoire du succès, que apparemment t'écoutais.
Oui, t'écoutais dans ma voiture en plus pour aller au boulot.
Et ben voilà. Et en fait, tu m'as dit que tu alors à l'époque, en tout cas parce que ta situation a changé depuis, que tu étais conseillère en économie sociale et familiale.
Oui, tout à fait.
Je te cite, travailleuse sociale spécialisée dans le budget et que tu accompagnais plein de publics différents, des mineurs, des majeurs, en situation régulière ou non, beaucoup de vécus différents.
Oui.
Et tu me disais que tu étais sur Brest et que peut-être que ça serait bloquant. Et effectivement, je ne suis pas venu à Brest et toi, tu n'es pas non plus venu à Paris pour qu'on puisse se rencontrer.
Non, c'est vrai.
Mais comme quoi, finalement, merci Internet, on finit par se retrouver à distance, certes, mais on finit par se parler.
Oui.
Donc, merci beaucoup de venir là. Entre-temps, ta situation, en tout cas, perso, a pas mal changé,
oui,
c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, j'ai été en arrêt à partir de juin 2022. Par rapport à un cancer, donc ça a un peu chamboulé un peu tout ce qui est professionnel forcément, parce que quand on est à fond aussi dans l'aide à l'humain, etc., on a envie de continuer, on a du mal à lâcher, surtout quand on est à fond comme ça.
T'as eu du mal à... T'as eu du mal à t'arrêter
Ouais, et à être aidé à l'inverse. Parce que quand on est dans l'aide, on a du mal à être aidé à l'inverse. C'est vraiment ça, et ouais, ça fait changer totalement de point de vue aussi.
Tu sais qu'il y a un truc que je vois beaucoup, c'est que les gens qui aident beaucoup, ou en tout cas qui donnent beaucoup, ont souvent du mal à
recevoir. Oui, tout à fait, je confirme.
Très bien, donc Isabelle, elle a du mal à recevoir, super, on est parti là-dessus, très bien.
On essaye, on travaille dessus.
C'est du travail, c'est un travail.
Exactement.
Ok, donc depuis effectivement, t'as eu cette maladie.
Oui, et donc j'ai eu la fin de l'arrêt, donc début du mois de mars là, 2024, et je suis en train de voir, puisque j'ai déménagé à Royan, pour faire du libéral maintenant de mon boulot, parce que de base je suis fonctionnaire, enfin avant j'ai fait des associations, donc j'étais dans le privé, je suis passée fonctionnaire, et donc là la maladie est intervenue, donc ça a chamboulé un peu tout ça, voilà.
Et tu veux plus, tu peux plus ou tu veux plus, je sais pas, rester dans la fonction publique de ce fait.
C'est un peu un mix parce que donc j'ai voulu suivre mon conjoint parce qu'il reprend le camping familial, donc là on est encore dans autre chose.
Ah oui.
Et donc bah je peux pas me permettre d'avoir un temps plein, de l'aider avec le camping et voilà. Et donc le libéral c'était ce qui s'offrait à moi, qui était okay. Le mieux, plus adapté, voilà.
Et donc, en gros, l'idée, c'est que tu continues à faire ce que tu faisais à Brest auparavant dans la fonction publique.
Oui, mais en cherchant...
Mais à ton compte.
Ouais, exactement, en cherchant des clients, comme on disait tout à l'heure.
Et non plus des usagers.
Oui,
c'est ça,
exactement.
C'est comme ça qu'on appelait
ouais,
les gens.
Usagers ou personnes accompagnées, ou voilà.
Ok. Tu bossais pour qui exactement, alors, dans la fonction publique?
Le conseil départemental du Finistère. J'étais en centre maternel, justement, qui est passé centre parental depuis, donc on n'accueille plus que des mamans dans l'enceinte, mais il y aura des couples avec enfants, donc soit les femmes sont enceintes et ou accompagnées d'enfants de moins de 3 ans.
Ok, donc dans ce centre-là,
ouais.
Donc parental aujourd'hui maternel, oui. Tu étais dédié à parler plus spécifiquement d'économie et de budget,
exactement,
c'est ça ?
Administratif, budgétaire, en fait, dans le but qu'elles reprennent leurs indépendances ou qu'elles apprennent, parce qu'on a quand même des mamans mineures, par exemple, et ouais. Qu'elles puissent sortir et faire de leur mieux, on va dire, en sortant, et qu'elles aient pas besoin de nous. En fait, c'est le fait d'amener une autonomie le plus possible. Mmh. Voilà. Donc c'est
apprends à un homme à pêcher.
Exactement. C'est mais c'est tout à fait ça. J'avais tout à fait ça en tête moi quand je faisais les entretiens. Et puis même d'aller en rendez-vous avec elle et de dire bon bah vous prenez la parole d'abord, on va voir, je suis en appui s'il y a besoin, mais là faut que vous sachiez le faire et quand vous serez sorti, vous serez fier de pouvoir le faire vous-même. Voilà.
Ok.
Donc c'était ma philosophie de boulot.
Et c'est des gens qui étaient dans des situations particulières, on va dire financière particulière, du genre c'était des personnes endettées, etc. Ou alors il y avait vraiment de tout.
Ah, il y a vraiment de tout. Il y a des okay. personnes qui peuvent être en rupture familiale, donc effectivement ça peut être compliqué niveau budget, mais pas non plus au point d'être surendettée. Il y avait effectivement une maman que j'ai suivie qui est arrivée en fait dans le centre maternel, qui était avec ma tutrice de stage quand j'étais en dernière année, donc c'était assez marrant, on a fait le lien. Elle est arrivée au centre maternel. Et derrière, on a tout repris là-dessus. Et elle parlait un peu d'une histoire de sac à dos avec des pierres. Et donc, quand on faisait le dossier de surendettement, ça lui enlevait des pierres. Et quand elle est partie du centre maternel, elle a dit « J'ai presque plus de pierres, c'est bon, c'est réglé. »
Ah, c'est
voilà.
Cool.
C'est alors, gratifiant quand ça se passe comme ça.
C'est trop bien.
Ouais.
À l'heure où on enregistre ce podcast, je ne sais pas si tu écoutes encore ou si tu écoutes Histoire d'argent, mais j'ai sorti un épisode avec Pauline Dujardin qui travaille chez Crésus.
Ah oui, c'est génial.
Qui est donc une association ouais. Qui travaille justement, qui aide justement les gens, alors plus spécifiquement sur les personnes qui sont surendettées.
Oui.
Et donc j'invite les gens que ça intéresse d'aller écouter parce qu'elle donne plein. Comme tu dis, c'est génial. Moi, je ne connaissais pas, en tout cas, je connaissais de loin cette association. Il y a plein de recours pour les personnes surendettées.
Oui.
Et c'est vrai que souvent, un peu le point commun de tous ces gens, de toutes ces personnes, c'est qu'il y a la honte derrière d'être surendetté.
Ouais.
Et donc, généralement, en fait, c'est à ce moment-là que tu creuses le trou plutôt que d'aller voir justement des gens spécialisés, notamment chez Crésus.
Oui.
Ou peut-être des personnes comme toi, plus proches, on va dire, peut-être dans la ville, quoi. Et ouais, je me doutais qu'il pouvait y avoir de la honte derrière, après presque 100 épisodes d'Histoire d'argent, mais à ce point-là, de finir par creuser un trou incroyable, c'est assez fou, quoi.
Ah bah ouais, totalement.
Donc ouais, donc j'imagine que tu aidais aussi ces gens-là, quelque part, enfin les personnes surendettées, à faire un peu le même accompagnement que Crésus, c'est-à-dire d'aider les personnes à faire leur dossier de surendettement, c'est
oui,
ça, par exemple ?
Oui, totalement. Et okay. Même à des moments, j'ai appelé Crésus quand il y avait des situations particulières, d'ailleurs. Déjà, quand j'étais en BTS, je devais tenir un projet, et c'était sur le dossier de surendettement. Donc, j'avais bossé avec Crésus, qui était venu en intervention à l'UFC Que Choisir, où j'étais donc stagiaire bénévole à ce moment-là. Et donc, derrière, j'ai gardé le lien aussi avec l'ancien président de Crésus de Brest, d'ailleurs. Et oui, donc je connais assez bien là-dessus. Effectivement, par rapport à la honte, oui, là j'ai rencontré pas mal de personnes qui, c'est difficile pour elles d'aller chercher les papiers qu'il faut pour faire le dossier, parce qu'il faut redemander, il faut réexpliquer la situation tout le temps. Quand on va à la Banque de France, on a l'impression qu'on rentre dans une prison, parce qu'il y a un sas où il faut présenter sa carte d'identité, c'est une personne, etc. Et donc de dire, bah, qu'est-ce que j'ai
comme
fait de mal.
Comme dans plein de banques, hein, d'ailleurs, de toute façon. C'est...
Ben...
Il y a pas mal de sas dans les banques, d'une manière générale, dans les banques physiques.
Ouais,
quoi.
Mais là, c'est vraiment un sas qui se clôture derrière toi. Et tu dois vraiment présenter ta carte d'identité et dire « c'est bon, montrez pas de blanche, en fait, pour rentrer ». Et là, ils se disent bah, « vraiment, où est-ce que j'ai atterri ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça, entre guillemets, quoi ?» Donc voilà, et c'était surtout ça que j'avais en souvenir par rapport au dossier de surendettement.
Ok.
Voilà.
Isabelle, comment t'en es venue à venir travailler spécifiquement ? On en parlait juste avant de l'enregistrement. Tu me disais, j'ai quelques pistes, mais je ne sais pas vraiment. Qu'est-ce qui a fait que tu as... Parce que c'est quand même très spécifique comme travail. J'imagine que tu voulais aller travailler dans le social, mais d'aller travailler plus particulièrement sur le sujet de l'argent dans le social, ça amène encore un truc en plus, quoi.
Oui, bah, je suis en train de réfléchir justement en même temps, mais d'abord, bon, j'ai pas mal bifurqué, hein, j'ai fait pas mal de choses différentes. D'abord, j'étais en bac social, donc ST2S pour ceux qui connaissent bien. Et donc, souvent, ils allaient au niveau études infirmières, et moi, je suis partie en langue étrangère appliquée, rien à voir. Voilà, j'avais envie d'échanger vraiment, et puis après je me suis dit mais où est-ce que je vais avec ça ? Et j'ai pas trop su quoi faire, et j'ai eu une année où j'ai travaillé, j'ai gardé des enfants, hein, j'ai fait le truc un peu classique, voilà. Et je me suis tournée vers le social, parce que j'avais juste une école avec qui, bah, justement, j'étais en bac à ce moment-là, enfin... Attends, c'est pas clair. Je reprends. J'étais dans un lycée pendant mon bac, et ce même lycée ouvrait des études supérieures par rapport à l'économie sociale et familiale. Et donc j'ai été aux portes ouvertes, j'ai regardé un peu toutes les choses dessus, et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça touchait à la vie quotidienne, et moi j'avais besoin de concret. Voilà. Et donc au fur et à mesure, ça s'est dessiné comme ça, et effectivement, le côté budgétaire, ça s'est plutôt dessiné en dernière année, où là il y avait des vrais stages pratiques et où on voyait que la situation des personnes s'améliorait quand on travaillait là-dessus. Et aussi, je trouve ça hyper intéressant au niveau psychologique, parce que c'est hyper intime, c'est hyper lié à la personne, et tu peux vraiment créer du lien de confiance en faisant ça. Et je trouvais que c'était très valorisant quand la personne se sent pas jugée, peut avancer dans son histoire et peut s'autonomiser derrière. Voilà, c'était surtout ça qui m'intéressait.
Ok, donc j'imagine à quel point Histoire d'argent t'a fait kiffer. Alors.
Oui, totalement. Mais c'est
top. On est en plein dedans, quoi.
Bah oui, c'est ça, mais c'est pour ça. Quand j'ai entendu l'idée, je me suis dit, mais c'est top.
Ok. Et alors, avec le recul, il n'y a pas du tout, il n'y a rien qui crée un lien entre ton histoire à toi avec l'argent et le fait que tu aies envie d'aller travailler pour des gens et de les aider, quoi.
De les aider, si, parce que papa pompier et ma mère, secrétaire vétérinaire, mais pour autant beaucoup dans les choses associatives, dons du sang, les banques alimentaires, etc., quand même, ça vient pas de rien.
Oui.
Mais le social en lui-même, je connais pas de conseillère autour de moi, par exemple.
Okay.
Voilà, j'ai connu au fur et à mesure.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
D'accord.
Voilà.
Bon, ça te dérange pas si on rentre dans le vif du
pas
sujet, dans
le.
Ok. Donc, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque en tout premier?
Un outil qui peut être positif ou négatif suivant ce qu'on en fait derrière. Donc, ça peut induire beaucoup de choses, mais ça me fait un peu écho, par exemple, où on va diaboliser, par exemple, les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux, de base, c'est un outil, et suivant ce qu'on en fait, c'est positif ou négatif. Et l'argent, c'est ce qui va mener, en tout cas, à développer des projets. Voilà, ça peut faire énormément de choses suivant ce qu'on en fait derrière, notre vécu. C'est très, très lié à notre vécu, nos parents, notre histoire, etc. Voilà.
Et donc, tu mets pas spécialement de choses négatives derrière, quoi?
Non, négative, je pense, escroquerie, mais ça reste un outil qui a été mal utilisé pour faire chanter des gens, malheureusement.
Ok.
Voilà.
T'as une histoire particulière avec l'escroquerie ou...
Non, pas du tout. Non, mais.
C'est marrant, ce
parce que parce que dossier de surendettement et boîte de recouvrement, etc., comme j'ai eu beaucoup dans le boulot, et pareil, l'UFC Que Choisir, où je voyais tous les litiges consommateurs, etc., je pense escroquerie dans ce cadre-là.
Ah, yes.
Voilà.
Ok, je comprends. Oui, parce que j'allais dire, c'est quand même étonnant que tu fasses ce lien-là en première abord.
Je pensais négatif escroquerie, voilà.
Ok. Non, mais vu ton vécu, franchement, ça ne m'étonne pas, quoi. Je comprends tout à fait.
Voilà.
Est-ce que tu as souvenir d'un souvenir, justement, marquant dans ton enfance ou de ton premier souvenir marquant avec l'argent, quoi?
Oh là là. Dans l'enfance... Moi, j'ai beaucoup l'image de mon père faisant très attention. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et à l'inverse, ma mère qui fait attention, mais qui veut faire plaisir, et mon père qui est plus dans la rétention. Donc, j'ai plus ce côté-là de quand j'étais gamine. Et je pense que ça m'a donné un bon milieu, quoi, une ligne d'horizon pour essayer de faire attention tout en se faisant plaisir. Parce que, on n'est pas obligé de garder notre argent jusqu'à la tombe. Je sais plus ce que j'ai lu il y a quelques jours je m'en fiche d'être la plus riche du cimetière ou quelque chose comme ça. Et ça m'a parlé. Donc il y a aussi ce petit côté-là de pas non plus s'empêcher de vivre, quoi.
Ok.
Voilà.
Et donc ta mère était vétérinaire, c'est ça?
Secrétaire
vétérinaire.
Oui.
Donc, en fait, ils avaient à peu près le même niveau de revenu?
Non, mon père plus important puisqu'il est monté en grade au niveau des pompiers et voilà. Mais je pense que lui, de son côté, mes grands-parents étaient très à faire attention au moindre centime, et je pense qu'il a gardé le même fonctionnement derrière.
Il a hérité de ça.
Oui.
Et toi, t'as la sensation d'avoir qu'est-ce que t'en as fait justement de cette double éducation, on va dire?
Je pense d'avoir pris un peu des deux, en fait. Je fais attention dans le sens que je dis ça beaucoup dans mes suivis, que je suis pas la personne parfaite, parce que souvent les professionnels, ce que j'ai du mal moi, c'est de dire il faut faire ci, il faut faire ça, comme s'ils avaient toujours tout fait parfaitement. Et moi, un des premiers trucs au contraire, c'est de dire moi aussi quand j'étais étudiante par exemple, j'ai été dans le rouge, je sais ce que ça fait. Mais maintenant, c'est en grandissant de pas refaire les mêmes choses, les mêmes erreurs, et de prendre en expérience. Et donc, du côté de ma mère, c'est beaucoup quand même de savoir se faire plaisir sans abuser. Et du côté de mon père, c'est de mettre de côté au cas où il se passe quelque chose qui est pas, des imprévus, des trucs, des appareils qui nous lâchent ou n'importe quoi. Et j'essaye d'équilibrer. Et pareil, avec mon conjoint, on a à peu près la même dynamique. Donc, ça s'aligne bien là-dessus.
Ok. T'as la sensation aujourd'hui d'avoir une relation à l'argent relativement détendue ?
Oui, plutôt. Plutôt, ouais.
Ok. Qu'est-ce... Non, je sais pas.
Je réfléchis en même temps à d'autres trucs, mais oui, ça va, plutôt.
Est-ce que le fait de bosser tous les jours avec des gens comme ça et de les faire finalement travailler eux-mêmes sur leur rapport à l'argent, t'as aussi incité, t'as aussi obligé finalement à travailler toi-même sur ton propre rapport à l'argent ? Est-ce que t'as la sensation qu'avec le temps, comment ta relation justement a évolué, ta relation à l'argent ?
Alors, forcément, quand on fait le budget des gens et qu'on se dit, par exemple, on fait des demandes d'aide financière parce qu'ils ont des difficultés, on fait tout un budget, on détaille jusqu'à demander « Est-ce que vous avez Netflix ?» des choses comme ça, tu vois. Te dis « Mince, mais moi, je me pose même pas la question. » Et donc, moi, j'avais ce côté-là de « Quel positionnement j'ai le droit d'avoir ?» Ça faisait un peu hypocrite pour moi de me dire « Mais je me pose même pas la question. » Et eux, ils doivent tout dévoiler pour avoir droit à quelque chose parce qu'ils sont en difficulté. Et donc, ça m'a fait reprendre et moi-même faire mes budgets, reprendre tout à zéro, mes contrats, mes machins. C'est pour ça, ça m'a beaucoup plus... je suis beaucoup plus carré maintenant que ce que j'ai pu être quand j'ai démarré parce que je savais pas qu'est-ce que j'allais rencontrer en entretien au début, pendant les stages, pendant... Et au fur et à mesure, quand on rencontre les gens, déjà on voit le mieux et le pire, on va dire. Donc on n'a pas envie d'arriver à une extrême négative, justement. Et on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour ? Et là, mon niveau, qu'est-ce que je dois faire ? Et voilà, donc j'ai travaillé un peu là-dessus, effectivement, de mon côté derrière.
Tu veux dire que la meilleure façon d'aider les gens, c'était avant tout de faire toi-même ce taf pour toi, c'est
oui.
ça ?
Oui, ouais, totalement. Okay. Parce que si j'avais pas bossé sur moi, c'est un peu quand on s'aide pas soi-même, on peut pas aider les autres. Et j'ai un peu ce côté-là de me dire, je peux pas dire aux gens, mais il faut faire ça, alors que moi-même je le fais pas. Moi, en tout cas, ça faisait un peu une dissonance dans ces cas-là, et j'avais pas envie, j'étais pas à l'aise, je me sentais pas légitime d'eux. Alors que là, de dire, oui, moi aussi, j'ai eu ces difficultés-là, et donc je vous comprends, et donc je vous conseille ça, vous en faites ce que vous voulez, c'est un conseil. Et surtout de ne pas empiéter dans leurs décisions et de réussir à trouver des bons compromis, quoi.
Oui, c'est-à-dire que, l'air de rien, tu aides les gens, si j'ai bien compris, à faire les dossiers, etc., etc., mais oui. À la limite, tu ne vas pas les envoyer pour eux, quoi. C'est eux, après qui décident de faire les démarches eux-mêmes, c'est
totalement.
Ça
totalement. Toujours demander le consentement, etc., oui. Puisque c'est très, 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 très perso. Et puis surtout, quand on envoie des récits de vie, entre guillemets, aux commissions qui décident ou non s'ils aident ou pas la personne, je relis toujours avec la personne, je dis « Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit ? Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à votre budget ? Est-ce que vous voulez revoir quelque chose ?» Et après seulement, on envoie ensemble quand ils ont besoin de soutien, ou elles envoient de leur côté au fur et à mesure. En fait, on met des petits objectifs atteignables pour qu'ensuite l'autonomie puisse se créer vraiment et que la personne s'en sorte derrière.
Ok. Voilà. T'as fait ça pendant combien de temps ?
J'ai eu mon diplôme en 2018. Donc j'ai commencé mes remplacements en 2017 quand j'ai fait mon premier lieu de stage. Et puis après, j'ai fait plusieurs postes différents et voilà.
Qu'est-ce qui t'a... Tu disais tout à l'heure, ce qui t'a intéressé, c'est la psychologie par rapport à l'argent et tout. Je me demandais un petit peu comment tu t'étais rendu compte de ça.
Simplement la réaction des personnes en face de toi quand t'es en entretien et que tu vois de la culpabilité ou de la tristesse ou des choses comme ça parce que des personnes au RSA qui vont faire des cadeaux à 200 € pour leur gamin pour Noël et qui disent « Mais moi, j'ai rien eu quand j'étais gamin ou quand j'étais gamine, donc je veux pas que mon enfant vive la même chose que moi. » Voilà. Et là, à ce moment-là, on se dit « Bah oui, le vécu influe sur le présent. » Et donc, c'est là beaucoup que j'ai vu ça et que on essayait de trouver justement des compromis en disant « Oui, peut-être que 200 € c'est beaucoup. » Qu'est-ce que vous considérez aussi comme un cadeau ? Parce qu'on disait « cadeau utile, j'en sais rien, acheter un nouveau lit pour votre enfant. » Ah non, c'est pas un cadeau. Il y a ça aussi, c'est qu'est-ce que ça représente pour eux, pour leur enfant. Et en fait, ça fait un peu l'enfant intérieur, quoi. C'est un peu réconforter son enfant intérieur pour... Après, derrière, être bien, et voilà, faut trouver tout un équilibre.
Réconforter l'enfant intérieur de ces gens qui avaient eux-mêmes pas eu de cadeaux quand ils étaient enfants, c'est ça que tu veux dire ?
Et rendre heureux leur enfant leur enfant ouais. intérieur et leur enfant actuel. Ouais,
c'est ça. C'est bien fait.
Tout à fait. Voilà.
T'as fait ça pendant... Donc, t'as fait ça pendant 3 ans, c'est ça ? 4 ans ?
Ben, combien de temps ? Ouais, 4 ans, ouais, c'est ça.
Est-ce que t'as des souvenirs marquants de choses ou de gens que t'as pu aider ? Ouais, voilà, je me posais ça comme question.
Bah, tout à l'heure, on avait parlé d'une maman qui avait un dossier de surendettement et qui donc parlait d'un sac à dos plein de pierres et qui enlevait au fur et à mesure qu'elle envoyait son dossier à la Banque de France, etc. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'hyper positif parce que j'avais l'impression que j'étais aussi contente qu'elle quand le dossier a été accepté. Parce que c'était vraiment, c'est moi qui vais l'annoncer, de dire aux collègues, bon, vous êtes au courant, mais vous dites rien, c'est moi qui l'annonce, parce que c'est notre boulot de moi et de moi ensemble. Et derrière, surtout d'avoir le suivi de cette personne-là, parce que après le centre maternel, on n'a pas forcément des échos de la suite. Voilà. Et là, j'ai eu des échos avec d'autres collègues et dont mon ancienne tutrice de stage qui la suivait de nouveau par rapport au secteur. Et donc ça, c'était hyper valorisant de voir des personnes qui s'en sortent au fur et à mesure, ou alors qui sont contentes d'une technique que j'ai donnée en entretien. J'avais une maman, il y a la technique des enveloppes qui est super connue maintenant sur les réseaux, que moi j'applique depuis donc mes stages, donc depuis 2017, quoi.
Et tu peux expliquer pour les gens qui sont pas forcément sur
les
réseaux.
Oui, totalement. En fait, c'est le principe de retirer une certaine somme d'argent après avoir fait son budget et se dire cette somme-là, par exemple, on va dire 200 € de courses par mois, on met l'argent dans les enveloppes et on laisse sa carte bancaire chez soi et on prend simplement l'enveloppe avec les billets et c'est beaucoup plus parlant pour les personnes puisque des billets qui sont donnés. Contrairement à une carte bancaire qui est utilisée, c'est beaucoup plus parlant pour les personnes. Et donc, il y a une maman qui n'arrivait pas du tout à économiser. Et avec la technique des enveloppes, elle a réussi en 2 mois. Elle avait, je ne sais plus, 700-800 € de côté, chose énorme pour elle.
Incroyable.
Et donc, elle était tellement heureuse qu'elle allait expliquer ça à une autre maman que j'avais en rendez-vous, mais qui n'arrivait pas à appliquer le truc. Mais comme elles étaient copines... Bah, ça a vachement bien fonctionné derrière et elles s'encourageaient l'une l'autre et j'ai dit bah, c'est super, vous allez me représenter en même temps et puis ça crée du lien comme ça, on rigole et puis voilà, et puis c'est hyper valorisant quand on voit comment ça avance et comment elles arrivent à faire des trucs qu'elles n'arrivaient pas à faire avant, quoi.
C'est une super technique ce truc de revenir un peu au cash parce que c'est vrai que de plus en plus on n'a plus de cash dans les poches. Et que c'est vrai que l'argent dématérialisé, il change un petit peu, je trouve, le rapport à l'argent. Et c'est vrai que pour tous les gens qui ont du mal, d'une manière générale, à se rendre compte de l'argent qu'ils dépensent, c'est une super idée, je trouve, de transformer cet argent-là en cash sonnant et trébuchant, de se rendre compte de ce que ça fait de le dépenser, quoi, au fil de l'eau.
C'est ça. Mais on peut avoir des freins aussi, parce qu'il y a des personnes qui associent ça un peu... Bon, ça va être trafic de drogue ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui peut être assez mal vu parfois. Et donc, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se dire ben, « je vais pas aller retirer 400 € au début de mon mois au distributeur. » Déjà, la peur de se trimballer avec ça, la peur de la vision des autres, etc.
J'allais dire, il y a peut-être de la peur de se le faire voler, cet argent-là, qui est aussi intéressante à affronter, quoi, d'une manière générale. C'est très peu sûr que finalement tu te fasses tirer du cash comme ça dans ta poche, parce que tu peux te faire tirer aussi une carte bancaire et aller te faire tirer peut-être pas 400 €.
Non, mais c'est ça.
En tout cas, tu peux aller te faire en sans contact pas mal de frais, quoi, d'un coup d'un seul, avant que tu t'en rendes compte.
C'est ça, je pense qu'il y a un peu la facilité de se dire ma carte, je peux la bloquer rapidement, et le cash, une fois qu'il est perdu, bah, il est perdu.
Il disparaît.
Voilà, exactement.
Il disparaît.
C'est ça, dans la circulation.
Adieu.
Voilà.
Ok, et donc, bon, tu as fait ça pendant 5 ans, et là, aujourd'hui, donc tu étais fonctionnaire, comme tu disais.
Oui.
Et donc là, aujourd'hui, tu te lances à ton compte.
Oui. Tout à fait.
Oui.
Oui. La légitimité s'entend dans la voix.
Oui,
oui, tout à fait.
Comment tu appréhendes ? Parce que finalement, tu vas faire exactement le même métier, c'est
oui.
ça ? Mais j'imagine à quel point ça change tout, de le faire à ton compte, pour toi personnellement, en tant qu'entrepreneuse finalement, mais aussi vis-à-vis des gens que tu vas devoir facturer, quoi.
Oui, exactement. C'est ça qui me fait un peu peur, j'avoue. Parce que là, jusque-là, c'était la structure qui m'amenait les personnes. Les personnes venaient à moi. Mmh. J'avais pas à faire de démarchage. Mmh. Voilà. Et là, c'est vrai qu'il va falloir que je fasse connaître l'entreprise, que j'explique tous les services, que je sois claire et que je vois un petit peu comment je peux aider, répondre aux besoins des différentes personnes. Et là, ça va être un challenge. Ça va être la difficulté majeure, je pense, de l'auto-entreprise.
Qu'est-ce qui va être compliqué pour toi ?
Démarcher, c'est le truc qui est compliqué pour moi. Ouais. Une fois que je suis face aux gens, il n'y a pas de souci, je suis lancée. Mais c'est comment faire, comment bien amener les choses. Aussi l'image de l'entreprise que tu représentes, parce que c'est totalement différent quand tu es fonctionnaire et que tu fais partie d'une structure qui t'englobe et quand là, c'est toi. C'est toi qui dois faire valoir ton expérience, qu'est-ce que tu peux donner comme service. Donc là, il faut être précis aussi dans la communication et voir ce qui peut être fait. Et d'une personne à l'autre, surtout, ça va pas impacter de la même manière suivant ce qu'on dit. Donc, il y a tout ça à travailler.
T'es sereine par rapport à ça, au-delà de ta petite voix qui monte dans la bouche?
Ça va, franchement, parce que je sais aussi que, comme je disais, comme mon conjoint reprend le camping familial, s'il y a une difficulté, on peut aussi, on aura toujours un toit. Donc rien que ça, déjà, c'est un luxe que tous les auto-entrepreneurs n'ont pas, et ça, j'en ai conscience. Donc,
alors, les gens auront toujours un toit. Ça, c'est-à-dire que vraiment, enfin, je ne nie pas la cascade qui finit par t'amener le fameux truc de « je vais finir sous un pont à la rue », tu vois. Mais ce que j'essaie toujours de détendre un petit peu chez les gens qui viennent chez moi, dans mon micro, me raconter qu'ils ont peur de finir sous un toit, c'est « t'as quand même combien de filets sécurité avant de finir sous un toit ?» Et souvent, c'est vrai que c'est une peur qui n'existe que dans la tête. Encore une fois, je sais que ça peut exister de vraiment... finir par dégringoler totalement et finir à la rue. Forcément, il y a des SDF partout. Moi, je vis à Paris, il y a des SDF partout. Mmh. Donc, j'imagine qu'ils ne viennent pas de nulle part. Mais en tout cas, des gens qui écoutent mon podcast ou qui viennent dans mon canapé pour venir me raconter leurs histoires, je leur dis t'as forcément des pare-feux, non? Ouais, souvent.
Oui, c'est vrai.
Mais quand ils réfléchissent deux secondes, ils se font putain, ouais, c'est vrai que j'ai peut-être mon frère, ma sœur, genre mes cousins, machin,
c'est
chez
ça,
qui je pourrais aller
dormir.
C'est
ça, parce qu'on est bien entouré et tout ça. Et oui, effectivement. Mais je pense que le fait d'avoir vu le pire, on projette. Forcément, il y a un peu de ça. Je pense que c'est
en tout cas,
le côté expérience.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Toi, t'as la sensation d'avoir vu le pire, c'est ça? Et de ce fait-là, tu te dis ah putain de merde.
Il y a pas mal de choses comme ça, parce que les demandeurs d'asile, les SDF, ça j'en ai vu aussi pendant mes suivis, ça c'est sûr. Et je pense que ça vient beaucoup de mon père qui, pareil, pompier, j'ai vu ça en intervention, oh mon Dieu, ça va nous arriver, et donc il faut absolument. Et je pense que je fais un peu pareil là-dessus. De me dire, il faut pas que j'en arrive au stade du suivi que j'ai avec telle personne. Ça peut arriver, effectivement.
Ok. Est-ce que tu te rends compte quand même que le simple fait de savoir déjà ça, ça t'exclut directement? C'est-à-dire
ça
d'en
diminue
avoir conscience.
Énormément les risques, mais ça ne fait pas le risque zéro, tout comme quand on se fait opérer, par exemple.
Oui, j'entends bien. Il n'y a jamais de risque zéro de toute façon. Mais ce que j'essaie aussi, tu vois, de venir dire, c'est de venir prendre conscience aussi que effectivement le risque zéro n'existe pas, mais est-ce que ça vaut toute cette prise de tête là, le simple fait que t'en sois consciente? J'imagine déjà que en fait t'as déjà conscience de la psychologie qu'il y a derrière.
Oui, mais surtout
donc,
comme je
quelque part t'as gagné quoi.
Mais comme j'ai déjà éliminé ce risque stress, ça va. Mais j'y ai pensé avant effectivement de me lancer, et là à ce moment-là je me disais c'est pas le moment. Parce que comme je sais qu'il y a une bonne stabilité là actuellement et que effectivement je me retrouverai pas sans rien, parce que oui, je l'ai conscientisé, là ça va, je peux le faire. Maintenant c'est bon, ça va pas ouvrir mes peurs en grand en me disant oh mon Dieu. Mais de toute façon, il y a que 8% de nos peurs qui sont réelles, donc je sais qu'à partir de là, le cerveau de toute façon a peur du vide et voilà.
Attends, d'où tu sors cette stat, 8%
de la vidéo et tout le monde s'en fout sur les émotions.
Ok.
Voilà, et à chaque fois je la re-regarde quand il y a des trucs comme ça, et il disait que 8% de nos peurs étaient réelles, entre guillemets, et le reste était inventé par notre cerveau.
Ah oui, non, mais j'aurais... Putain, 8%, c'est quand même beaucoup. Tu vois, moi, j'aurais vraiment dit... Non, mais tu sais, dans notre monde actuel, oui. En vrai, il n'y a pas beaucoup de choses auxquelles on est... de peur auxquelles on est confronté, quoi. Je veux dire, on n'est pas non plus... Je sais pas comment ça se passe à Royan, mais tu vois, par exemple, il y a pas d'animaux sauvages dans la rue à Paris, tu vois,
oui,
ou qui pourraient nous bouffer à tout instant.
Non, à Royan, ça va aussi. Ça va, il y a pas trop de risques, on est bon normalement.
Ok. Mais donc ouais, pour l'instant, t'es, disons que le fait que ton chéri donc se retrouve à la tête d'un camping, ça aussi, ça doit être un... Il reprend le camping familial.
Ouais, il est en auto-entreprise aussi.
On pourrait aussi faire un super épisode d'Histoire d'argent, lui et moi.
Je pourrais lui proposer, si tu veux.
Donc toi, tu vas te retrouver aussi dans une posture où tu vas devoir finalement, facturer, demander des sous,
oui,
à des gens qui n'en ont pas beaucoup.
Oui.
Et je te disais juste avant l'enregistrement, ça me rappelle l'épisode de Marion, dont je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode, où elle-même était avocate pour des personnes qui étaient dans des situations illégales ou précaires d'une manière générale. Et en fait, elle faisait tout pour faire en sorte de ne pas les facturer. Ou alors, elle leur donnait le tarif, c'était OK et tout. Et puis en fait, à la fin, elle oubliait la facture parce qu'elle avait un
acte
peu
manqué.
Honte. Ah oui. C'est même pas un acte manqué.
Ça,
hein,
c'est délibéré.
Oui. Elle était un peu mal à l'aise de finir par leur prendre, entre guillemets, de l'argent. En tout cas, c'était l'idée qu'elle avait. T'es à l'aise, toi, avec cette idée-là, avec cette perspective-là? Ou c'est un truc qui te met un peu mal à l'aise, là, comme ça, avant même d'avoir vraiment commencé ton activité?
J'y ai pas mal réfléchi là-dessus. Et je sais que, moi, je pense à la dynamique d'épicerie sociale, par exemple, où les personnes payent beaucoup moins. Mais elles se sentent incluses quand même. Et je sais qu'il y a des personnes qui, quand elles vont au Resto du Cœur, par exemple, elles sont très gênées de recevoir parce qu'en échange, elles ne donnent rien. Et c'est un côté éducatif aussi de faire payer, en fait, et inclusif. Donc j'ai un peu, effectivement, travaillé là-dessus. Et j'avais aussi l'idée, à l'image des cafés suspendus dans les restaurants où les personnes payent pour d'autres personnes, de dire si les personnes veulent payer 2 euros de plus et au bout d'un moment, de pouvoir offrir une heure à quelqu'un qui a vraiment des grosses difficultés et qui n'a pas le choix que de passer par moi. Après, je sais que les personnes qui ont des difficultés, de base, elles peuvent aller dans des centres justement départementaux d'action sociale, les CDAS et les CCAS aussi pour la ville. Voilà, donc elles ont ces options-là, mais s'il y a vraiment besoin de moi pour un cas spécifique, c'est ça que j'aimerais bien proposer, des sortes de rendez-vous suspendus. Voilà, j'ai un peu réfléchi à tout ça.
Oh, c'est-à-dire, pour les gens qui l'ont pas, le café suspendu, je sais plus quand est-ce que ça a fait un petit peu le buzz sur l'internet. Je crois que ça vient d'Italie, non? C'est
je
pas
crois,
ça, à la base?
Ouais, je crois que c'est ça.
Où effectivement, si t'es voilà, tu viens prendre un café, en fait, tu peux payer un café, suspendu,
oui,
pour le coup, qui devient suspendu, pour une personne qui viendrait, peut-être une personne SDF ou une personne qui a pas forcément l'argent pour se payer son café.
Oui.
Et pour payer en avance, on va dire, un café à un inconnu dont tu ne sais pas qui il sera, quoi. Donc, tu as un peu cette idée-là.
Oui, tout à fait. Comme ça, de faire participer si les personnes souhaitent aider, parce que des fois, c'est très gênant de recevoir de l'aide, justement pour les personnes qui sont en difficulté. Et il y en a qui veulent donner quand même. Donc, ça fait un peu le mix en disant la personne garde son anonymat et de l'autre côté, la personne qui a plus d'argent est peut-être contente d'aider, même si c'est que 2 euros. Ou voilà. Et ensuite, de se dire, ben, quand on atteint la somme pour une heure de travail, je peux accompagner une personne qui a une difficulté et communiquer comme ça. Voilà. Donc, j'essaie de trouver un mix pour me dire, il faut que la personne ne soit pas en difficulté, il faut qu'elle ne soit pas gênée, est-ce qu'elle veut participer à hauteur d'eux, enfin, voilà. Mais effectivement, de ne pas faire participer du tout, des fois, il y a des personnes qui ne le tolèrent pas, qui le vivent mal. Il y a ça aussi. Donc, c'est le juste milieu que j'ai trouvé pour le moment.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Tu proposes pas un truc qui se fait beaucoup dans les milieux associatifs, de payer genre ce qui vous... Tu sais, un peu au chapeau, quoi. C'est-à-dire...
Oui, j'ai pensé à ça aussi.
Donner ce qui vous plaît, quoi. Donner ce que vous pouvez. Votre prix juste.
Je pensais à ça pour les personnes quand même qui ont... Bah, je pensais aux étudiants, par exemple, les étudiants qui sont en difficulté. Je sais que j'ai une stagiaire que j'ai eue il y a 2 ans de ça, justement, qui avait besoin d'aide d'une conseillère pour son mémoire, donc dans le domaine, dans notre domaine à nous. Et la personne en question ne faisait pas du tout de tarif étudiant. Et moi, c'est un truc que, par contre, j'aimerais faire. Tarif étudiant, tarif pour les personnes qui sont en situation de handicap. Ça, c'est quelque chose que j'ai pensé. Après, au chapeau, si je suis plus à l'aise, peut-être plus tard, oui. Mais au départ, pour lancer le truc, je suis pas sûre de pouvoir,
plus à l'aise
au niveau
financièrement.
Oui, tout à fait. Okay. D'avoir la possibilité de me dire ça roule, donc je peux me permettre. Mais de commencer par ça, je pense que c'est aussi compliqué pour moi et ça va peut-être décrédibiliser aussi la micro-entreprise. Ça peut être. Voilà. Et donc il faut que je sois en lien avec mes besoins et les besoins en face aussi.
Et ça, ça va ? T'es à l'aise avec ça ? Avec le fait de regarder justement, de réussir à trouver le juste milieu entre tes besoins à toi ? Tout à l'heure, on parlait de c'est compliqué de recevoir. Quand on aime beaucoup donner, comment tu t'ouvres à recevoir justement cet argent ?
Là, comme j'ai fait quelque chose, j'ai donné des compétences, dans l'autre sens, c'est moins compliqué de recevoir, je trouve. Là, j'amène des compétences, j'amène un accompagnement et des conseils et j'adapte à la personne. Donc là, c'est pas gênant pour moi de recevoir puisque j'ai... l'expérience qui fait que, le diplôme qui fait que, et donc là, je suis moins gênée de recevoir. Si je faisais rien et que je recevais, là, c'est autre chose.
Ok, mais c'est déjà génial, c'est que j'ai interviewé notamment Clélia, qui est psy, et qui racontait qu'effectivement, dans les milieux, d'une manière générale, du care, et donc de tous les gens qui veulent prendre soin, c'est toujours un peu compliqué de venir mettre en face... un tarif et que voire même de se faire payer tout court quoi. Toi t'as l'air d'être à l'aise avec ça quoi.
Oui ça va, j'ai pas mal réfléchi et j'en parlais, moi je suis plutôt entourée autour d'informaticiens, de développeurs, et j'ai un ami qui est dans le conseil par rapport au référencement sur Google pour faire remonter les sites internet et il m'a dit je fais payer le conseil et là je me suis dit mais pourquoi nous dans le social on est si gênés de faire ça alors que là ils le sont pas. Et donc je fais un peu ce parallèle-là et au fur et à mesure j'ai commencé un peu à travailler là-dessus et à me dire pourquoi je suis si gênée moi de recevoir justement de recevoir de l'argent si j'apporte aussi mon conseil.
Alors tu sais pourquoi t'étais gênée?
Parce que c'est tout le social déjà ça vient de la charité, ça vient de la religion chrétienne donc c'est vraiment le on donne tout pour aider et je pense qu'il y a un peu ce côté-là de il faut pas demander en retour. Il y a un peu cette gêne là implicite de il faut pas avoir même quand des personnes reviennent avec des cadeaux alors qu'on a eu un suivi, on est gêné au début de recevoir, on dit est-ce que je mérite, est-ce que et finalement si la personne est contente et qu'elle amène ça, d'un autre côté ça peut être insultant aussi de pas recevoir. Donc voilà, il y a un peu ce mix là que j'ai essayé de faire pour justement être bien, réussir à me dire il faut quand même que mon entreprise soit viable et il faut que les personnes soient contentes. Et de toute façon, une personne qui est contente, elle saura le dire et inversement. Donc, il faut toujours doser en fonction de qui on a en face.
C'est vrai qu'il y a un vrai truc. J'ai pas mal de gens que j'ai pu croiser qui travaillent dans le social. Comme tu dis, ils sont super forts pour donner. Et donc, en fait, ils adorent que les personnes en face soient capables de recevoir, j'imagine, tout ce qui... Parce que je crois que c'est aussi comme ça, finalement, qu'ils se rémunèrent, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que c'est peut-être compliqué de recevoir de l'argent en retour. Mais c'est vrai que je me rends compte aussi qu'ils ont parfois du mal à se rendre... à être capable de recevoir et donc d'être capable aussi de donner à l'autre la possibilité de donner.
Oui.
Finalement.
C'est vrai, parce qu'on va plus dans un même sens en général. Par contre, là où il faut arrêter, y a aussi des limites, parce qu'on a le rôle du sauveur parfois, et souvent quand on arrive dans le social, on est génial, on va avoir une baguette magique, et puis on arrive face à des situations, et en fait on n'a pas la baguette magique en question, on ne peut pas solutionner
tout. C'était comme ça ?
Je l'avais, pas autant que certaines collègues que je peux rencontrer parfois, mais je l'avais, ouais. Et c'est les formatrices, c'est les personnes de terrain qui disaient hey, on n'a pas de baguette magique, on n'a pas de cap, on fait de notre mieux. Il y a des personnes qui ne veulent pas d'aide. Même si elles viennent jusqu'à la structure, il y a des personnes qui vont dire non, mais c'est bon, je suis en difficulté, mais j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'aller prendre tel papier, j'ai pas envie de faire tel formulaire. Ça sert à rien de dépenser son énergie avec quelqu'un qui veut pas, puisque ça doit venir d'elle, en fait. Et c'est vrai que ce côté sauveur, moi, je me suis beaucoup calmée, parce que quand on se dit, elle veut pas recevoir, et moi, je suis en train de vider mon énergie dans le vide, ça sert à rien. Et je sais que j'ai pu voir des collègues, j'ai dû le faire quand j'étais en stage aussi. Après, ça m'a vite calmé suivant les situations. Mais d'avoir ce côté, j'arrête là. J'arrête là et j'ai ces collègues qui pouvaient continuer et faire à la place d'eux. Sauf que le but final, c'est d'autonomiser les personnes. Si on fait à la place d'eux, elles apprendront pas. Et donc, je sais que des fois, je pouvais être un peu plus stricte par rapport à certains suivis que j'avais. Par exemple, ça pouvait être des personnes étrangères. Le fait d'être ponctuel, étrangère ou française d'ailleurs, mais plus étrangère en général, c'était pas la même culture. Et donc, je disais, si vous n'êtes pas à l'heure la prochaine fois, je vous prends pas du tout en rendez-vous, on n'avance pas votre situation. Et derrière, il y avait des collègues qui rigolaient parce que quand ces personnes-là étaient en rendez-vous avec elles, donc des éducatrices par exemple, « Oh là là, on va être en retard au rendez-vous d'Isabelle, faut vite qu'on se dépêche. » Et elles disaient « Nous, accessoirement aussi, hein, ça aurait été sympa d'être à l'heure à notre rendez-vous. » Et sauf que c'est...
Parce que tu avais posé tes limites, toi.
Exactement. Et je me disais, de toute façon, si moi je ne les pose pas, ce sera peut-être un professionnel qui les posera derrière et ça sera à leur risque et péril. En ressortant du centre maternel. Et donc, le côté dur, faut pas avoir peur. Enfin, faut doser, évidemment. Faut pas être ignoble en face.
Un tyran.
Exactement. Mais il faut dire, là, ça va trop loin. Il y a quelqu'un qui pourrait ne pas le supporter, un professionnel en face, et pas vous recevoir du tout, et plus même vous revoir et vous exclure carrément de sa liste. J'en sais rien, un professionnel de santé, n'importe quoi. Et il faut pas que ça vous arrive. Et j'expliquais tout le temps. Et, d'accord, là, je comprends, ok. Et donc, elle le savait d'elle-même. Et après, derrière, elle était à l'heure, il n'y avait pas de souci, par exemple.
Bah, bien joué.
Merci.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je trouve que c'est cool. J'ai un peu l'impression que tu as réussi à construire un petit peu tes propres limites et un peu ton propre style au fil du temps, quoi.
Oui, au début, on n'ose pas sortir du cadre, on regarde beaucoup comment font les autres.
En tout cas, t'osais pas.
Non, c'est ça. Oui, j'ai du mal à dire je, c'est ça. Je n'osais pas. Oui, c'est vrai. Je n'osais pas, effectivement.
C'est
sortir.
Parce qu'on est en visio que je peux pas te couper aussi facilement.
Ah, d'accord, mais ok. Bon, je vais faire attention, je vais essayer de me corriger. Mais
très
oui,
important.
Je regardais beaucoup au niveau du cadre, mais ça depuis petite, je suis comme ça de toute façon, je sais. Et j'osais pas sortir dans les suivis, sortir de ce cadre, faire comme la tutrice, etc. Et j'ai dû beaucoup voir au niveau positionnement professionnel comment faire. Et ça a été assez complexe pendant un temps. Et justement, le fait d'avoir travaillé sur le psychologique et qu'est-ce que ça me faisait moi, qu'est-ce que ça faisait en face, ça m'a beaucoup aidé là-dessus.
Comment tu as réussi à faire ce travail de... J'ai un peu l'impression que tu as... Je parle souvent de travail de déloyauté vis-à-vis de ses parents et tout. J'ai un peu l'impression que tu as réussi, toi, à prendre le recul par rapport à la situation, notamment de ton père qui avait l'air d'être un peu... Peut-être qu'il l'est toujours, je sais pas. Stressé, un peu tendu par rapport à l'argent. Je sais pas si tu arrives à changer ça si tu fais pas ce travail-là, quoi.
Je pense pas parce qu'il y a des choses qu'on conscientise même pas si on n'en parle pas. C'est quelque chose qu'on voit depuis gamin, donc c'est vraiment on est un peu formé là-dedans, et oui, si on regarde pas comment ça a fonctionné avant, je pense qu'on peut pas changer ça. Et ma sœur a un fonctionnement différent, mon frère a un fonctionnement différent, j'ai un fonctionnement différent d'eux, et c'est vrai que si on met pas entre guillemets le nez dans la merde, excuse-moi du voilà,
ouais, tu peux y aller.
C'est en fait, on changera rien du tout. Et on sait que de toute façon, on a nos croyances, nos idées reçues, et si on se dit pas, ça existe et je l'ai vécu et j'ai pas envie de refaire, en fait, on changera rien. On peut pas changer en un claquement de doigts, quoi.
T'as eu un déclic? Ou t'as eu quelque chose qui t'a fait dire, ok, ce truc-là, chez mon père ou chez ma mère, Ça, je prends moins. Il s'est passé des trucs pour toi ?
Je pense que j'ai dosé beaucoup et aussi le fait d'avoir mon conjoint qui a un peu fait le sas entre ma famille et lui, voir comment il fonctionnait, lui qui a une manière très saine de fonctionner. Et et vraiment à faire parce que donc il a eu une ex-femme avec qui il faisait par exemple des tableaux Excel suivant le revenu de l'un et de l'autre, il faisait au pourcentage et il y a jamais de culpabilité en lien avec l'argent. S'il y en a, on en discute, parce que moi j'avais beaucoup la culpabilité quand j'étais étudiante de dépendre de lui, et lui il me disait « mais non, c'est bon », et donc on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup reparlé, et après j'ai pu me dire « mais pourquoi j'agis comme ça ? Pourquoi j'ai peur d'eux ?» et je sais que pendant un temps j'avais énormément peur, par exemple, de dépendre financièrement de lui, parce que mes parents sont divorcés et que heureusement que ma mère travaillait, parce que sinon elle aurait pu se retrouver dans une situation très très compliquée aussi. Et ça m'a beaucoup, beaucoup suivi. Et même de travailler au centre maternel, de voir des mères seules devoir gérer leur enfant, ça m'a aussi travaillé en me disant « mais si moi j'ai une difficulté, qu'est-ce que je fais ?» Voilà, il faut toujours que je travaille. Et j'avais beaucoup cette culpabilité-là quand je ne travaillais pas.
Comment tu as fait alors ? Parce que c'est vraiment un truc que je retrouve beaucoup chez beaucoup de femmes, ce besoin d'indépendance, tu vois, dans l'histoire d'argent d'une manière générale. Comment t'as fait, toi, pour travailler sur ce besoin d'indépendance ? Est-ce que t'as réussi à trouver, finalement, un juste milieu, à te rendre compte que tu pouvais être dépendante de ce mec et en même temps indépendante par plein d'autres aspects, dépendante par certains, indépendante par d'autres, et que finalement, ça faisait pas de toi une femme soumise et dépendante de son gars ? Ce qui est un truc qui existe, hein, je tiens à le dire, mais en tout cas, dans ta situation, ça a pas l'air d'être le cas, quoi.
Ben, c'est ça, mais ça s'est fait petit à petit. C'est surtout, c'est en lien avec la confiance qu'on porte à l'autre et aussi... il a fallu que je regarde chez moi en regardant mon passé et pourquoi, et voilà, et de regarder à quel point je pouvais faire confiance à mon conjoint avant de lâcher les rênes. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que avant qu'on parte de Brest pour venir à Royan, ça appartient à sa famille. Donc là, il a la maison de son arrière-arrière-grand-père qu'on doit retaper. En gros, c'est ça l'histoire.
Attends, quand tu dis Royan, ça appartient à sa famille, le gars,
n'a pas la ville.
Le gars a la ville.
Non, moi, on parle par zone, nous, tellement on bouge. Mais non, il a une maison.
En tout cas, la maison dans laquelle vous vivez.
Ouais.
Elle appartient. Okay.
C'est ça qui appartient à sa famille et qu'il a eu lui en héritage. Et donc moi je me suis dit, il faut surtout pas que je parte de Brest sans avoir quelque chose si j'ai besoin de me retourner. Et donc là je me suis dit, niveau sécurité, je prends un appartement parce que malheureusement on a beau s'aimer très fort, ça peut terminer un jour puisqu'il y a toujours ce truc là en arrière-plan. Et donc, s'il y a besoin, je peux retourner à Brest. Je suis en disponibilité pour suivi de conjoint. Je peux retrouver un emploi si je reviens dans le Finistère. Et j'ai toujours mon appartement. Donc, j'ai essayé de doser comme ça et de me dire, OK, là, je suis bien. Là, j'ai quelque chose pour moi. Et lui a son truc à lui. Et on fait tout le temps ça. On avance petit à petit et on dose à chaque fois.
D'accord. Et donc, tu as trouvé le bon niveau de sécurité dont tu avais besoin,
oui,
finalement, c'est ça ?
Exactement, c'est ça. Je ne pouvais pas partir sans rien et tout lâcher et démissionner. Et voilà, là, j'ai ma sécurité quand même.
Ok. Bon, en tout cas, c'est ta situation qui te permet de pouvoir avoir ça,
oui,
si j'ai bien compris. Parce que, ouais, comme tu dis, tu es en disponibilité, donc tu es quand même dans la fonction... Enfin, tu as encore le...
Agent du...
Le statut, c'est ça, de la fonction publique ?
Exactement, c'est ça.
Ok.
Voilà.
Donc, tu as la possibilité de te retourner si tu veux. Si jamais il y a un pépin entre vous, quoi, j'imagine. Et si tu veux aussi.
C'est
quoi.
Ça, exactement.
Ok, trop bien. Quand est-ce que tu commences ton activité ?
Eh bien, justement, je suis en train de voir un petit peu pour les démarches, là.
Ouais.
Et je vois mon conjoint qui se prend un peu la tête avec tout ce qui est ouverture d'entreprise, n'importe quoi, parce que lui a la sienne depuis début 2022. Et donc, je suis en train de regarder avec lui aussi comment ouvrir l'entreprise, comment ne pas se faire avoir par des publicitaires, des machins. Donc voilà, je suis un peu là-dedans.
Des publicitaires ?
Oui, tu sais, les premiers liens qui sont sur Google souvent, là, les trucs d'annonce.
Oui.
qui te facturent des trucs improbables alors que tu peux l'avoir gratuitement ce service-là, par exemple. Et comme je suis totalement néophyte à ce niveau-là, voilà. Et donc je suis en train de m'inscrire à France Travail. Je regarde les formations pour justement réussir à se vendre en tant que libéral dans le social. Voilà, je regarde un peu tous les modules et puis ben je pense que je me lancerai après dans cette formation là pour pas faire n'importe quoi pour démarrer. Voilà.
Parce que tu veux monter une autre entreprise, c'est ça ? Faut rappeler que c'est totalement gratuit, que c'est hyper simple à faire. En ligne sur le site de. Alors, je crois que c'est l'INPI là en ce moment, hein, c'est ça si,
alors,
si
là, oui, il y avait, pas, y avait voilà. L'INPI, effectivement, mais là, je sais qu'il y a pas mal de bugs, par exemple, de sites.
C'est un grand voilà. un bug national en ce moment.
Exactement. Et là, voilà, moi, j'ai mon conjoint qui se tire un peu les cheveux là-dessus. Donc, je regarde de loin et j'apprends pour te retrouver avec les mêmes difficultés. Voilà.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler, Isabelle ?
Je trouve que c'est pas mal déjà, l'histoire personnelle, l'histoire pro. Je pense que j'aurais du mal à aller plus loin sur le sujet. Je sais pas. Là,
est-ce qu'il y a est-ce qu'il y aurait, je sais pas, un ou deux ou trois conseils que tu aurais à donner par rapport à des gens qui sont dans la merde budgétairement et qui ou alors qui ne savent pas ou alors qui ont peut-être une phobie administrative. On a parlé tout à l'heure des enveloppes, mais j'imagine à quel point est-ce que je sais pas un truc peut-être pour dépasser la honte aussi parce que c'est souvent ça aussi qui empêche les gens de venir demander de l'aide quoi.
Ouais, c'est vrai. Après la honte c'est compliqué parce qu'il faut travailler sur soi donc ça prend du temps. On peut pas dire en deux phrases n'ayez pas honte parce que c'est le premier truc qu'ils vont ressentir justement. Mais en tout cas pour les personnes qui accueillent la parole de ces personnes-là de pas juger. Parce qu'on a tous une histoire différente, on a tous un vécu différent déjà. On n'a pas tous les mêmes chances à la base. Ça, faut pas l'enlever. Et pour les personnes qui ont des difficultés financières, ne faites pas avec l'argent que vous n'avez pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prévoient, j'en sais rien, j'ai un remboursement EDF à telle date, il suffit qu'il y ait le moindre bug, un moindre retard, ils ont dépensé un argent qu'ils n'avaient pas, et il y a un découvert derrière. Et ça, c'est ce qui peut faire basculer une situation qui est déjà précaire.
C'est un super conseil. Ne faites pas avec. Non, mais c'est vrai. Faites pas avec l'argent que vous avez pas. C'est une.
Il faut pas prévoir trop loin justement. C'est toujours là qu'on perd pied et puis en fait on s'est pas rendu compte et on s'est dit que c'était ok et en fait non.
Right. Merci beaucoup, Isabelle.
Merci à toi. Je suis contente.
Je te souhaite. Moi aussi, je te souhaite le meilleur hein, pour la suite de ton entreprise, hein, voilà, le début même.
Oui, tout à fait.
Et puis merci pour tous tes conseils et merci pour ton mail
qui date de 2021.
Qui faisait partie des mails originaux, les mails originels que j'ai reçus. Merci beaucoup.
Ça marche, merci.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.